Yes, and that goes on the road again, yeah.
On se retrouve. Tu nous proposais un petit vinyle pour la fin ?
Oui, d'un groupe qui va se faire connaître après l'édition
c'est tout nouveau,
de la date.
Ça s'appelle New Order.
New Order, à nouveau, nouvel ordre.
Nouvel ordre. Tout à fait.
Donc voilà, True Face.
Ok, et puis à bientôt à tous. Bonne semaine.
À bientôt.
Allez, ciao. Avec de l'amour.
Toujours l'amour se construit, boum boum.
Et c'est déconstruit.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pacte entier, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la foule.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se part. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11 heures, mal au cœur, déjeuner, mon café, ta radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Allez, c'est bonsoir. Parti, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi 12 décembre 2019.
Et aujourd'hui, une émission où il n'y aura pas d'international parce qu'il se passe beaucoup trop de choses en France. On va commencer par un entretien avec un cheminot de Sudrail. Et ensuite, on passera à nos sujets nationaux, c'est-à-dire direction de la SNCF, briseuse de grève et un état des lieux de la grève en France. Ensuite, on parlera de Lovoy, dont on parle déjà beaucoup partout.
De Lovoy.
On parlera aussi de ce qui s'est passé dernièrement à Bordeaux, pour enchaîner avec la police. En parlant d'abord des multiples attaques de l'extrême droite contre la mobilisation sociale, puis des syndicats de flics et de leurs revendications. On terminera le national avec un sujet sur le déni du droit de grève à l'hôtel intercontinental à Marseille. Et au local, on parlera d'Unity Lyon, puis de ce qui s'est passé le 10 décembre, notamment le fait qu'un passant a perdu 9 dents après s'être fait tabasser par la police. Pour finir, par un petit documentaire sur un nouveau lieu, l'espace communal, qui est ouvert à la Guillotière, officiellement depuis hier. Et on commence donc par l'interview.
L'interview. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David de Sudrail. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter, je viens de le faire, ton prénom c'est David, mais tu peux nous présenter un petit peu Sudrail et qui tu es un peu plus.
Alors, moi j'ai 47 ans, donc cheminot, donc travailleur du rail en fait, hein, Sudrail. Alors Sudrail, nous on est surtout sur la charte d'Amiens, la grande charte d'Amiens qui est vraiment une charte qui à l'heure actuelle peut vraiment nous aiguiller dans les combats à venir, c'est-à-dire on est pour l'autonomie, on est pour une organisation, la grève aux grévistes, ça c'est très important, ce qui peut nous permettre, si vous voulez, de nous approprier à notre niveau des moyens de lutte et de manière à ce que les travailleurs du rail et les travailleurs en règle générale puissent prendre confiance en eux. Je pense que ça c'est très important. Et on va peut-être aborder les différents sujets à l'instant. Une des caractéristiques de ce mouvement-là, c'est que c'est un mouvement qui part de la base. C'est pas du tout piloté par des directions syndicales. Ce qui en fait l'originalité, la spontanéité, et ce qui est vraiment, une étincelle d'espoir qui peut peut-être, et j'espère, nous permettre de déboucher sur quelque chose de très intéressant pour l'avenir.
Alors toi, tu travailles à Pardieu, donc on va commencer par là cette interview, et après on va élargir sur Lyon, et puis à l'échelle régionale et nationale. Alors d'abord, comment se déroule la grève à Pardieu, et même tu peux aller directement sur Lyon, après Pardieu, depuis le 5 décembre à peu près.
Alors, la grève se déroule très très bien à Pardieu. On a une forte mobilisation. Sans vraiment rentrer dans les détails techniques pour les auditeurs, je vais simplement présenter une échelle, pour, une sorte d'échelle de Richter pour que les gens puissent bien comprendre l'état de la mobilisation. En opérationnel, donc les gens qui gèrent les crises chez nous, les mouvements sociaux, il y a à peu près 5 grandes échelles qui va de S0, S1, S2, S3, S5, qui sont des situations de crise scénario auxquelles notre direction doit faire face pour essayer de mener à bien justement la production, faire en sorte que les trains roulent, que les gares fonctionnent. Donc depuis le 5 décembre, on est sur le scénario S0, qui est le pire des scénarios, à savoir que ce scénario-là, normalement, la direction, notre direction, doit être théoriquement en mesure de faire rouler 40 trains par jour sur toute la région Rhône-Alpes. Donc le 5 décembre, patatrac, incapable de mener à bien ce service minimum, entre guillemets, donc ça donne déjà un état de la mobilisation. Sur Lyon, pour donner des chiffres, alors pour demain, des chiffres de grévistes, vous avez les ateliers de la mouche, hein, les ateliers de maintenance, c'est là où on répare les trains, en fait, pour faire très simple. Hein. Vous avez des taux, on a 100%.
100%.
Vous avez Vénissieux, 85%. Chez les roulants, alors les roulants, c'est qui? Ce sont les mécanos, ce sont les gens qui tirent les trains, comme on dit dans notre jargon, hein, qui conduisent un train. Chez nous, on dit tirer un train. Hein, voilà. Et on a les contrôleurs aussi, on a des taux qui varient entre 65-70%. Donc on a tout métier confondu à la SNCF, des gens qui sont mobilisés. Et donc ça donne un peu un état des lieux de ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe à Lyon et c'est ce qui se passe dans toute la France. À tel point qu'on a une direction qui est paniquée, qui n'hésite pas à mettre en danger les usagers, qui va dire par exemple via Twitter, ne venez pas dans les gares parce qu'il y a beaucoup trop de monde, on n'est pas à même d'assurer votre sécurité. Donc le bon sens voudrait qu'en fait, dans ce cas-là, on ferme la gare pour éviter justement qu'il y ait des mouvements de foule. Eh ben non, on a une direction qui n'en a rien à faire et est prêt de justement à mettre la vie des usagers en danger. Et ça, c'est vraiment inadmissible.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a une divergence de chiffres à l'échelle nationale entre la direction et les syndicats? Alors, elle joue sur quoi?
Alors, notre direction avec Monsieur Farandou, nous, on s'amuse sur les piquets de grève, on l'appelle Monsieur Farandole, ne donne pas de chiffres. Alors, quand on vous donne pas de chiffres, c'est que les chiffres sont très bons.
Ouais. Hein,
voilà. Il y a un côté très orwellien, c'est quasiment stalinien. Mais vous inquiétez pas, c'est pas perturbé. Mais alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas de train? Mais ça, c'est pas grave. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, le fait est que de toute manière, on a une direction qui est dans l'embarras, qui ne sait pas comment faire pour se dépêtrer de cette situation-là. Les chiffres sont bons. D'ailleurs, si les chiffres étaient aussi faibles que ça, la direction n'hésiterait pas via Twitter, réseaux sociaux et compagnie, justement, à dire, écoutez, vos chiffres sont lamentables, reprenez le travail. Mais ce n'est pas le cas.
Alors, à l'échelle nationale, est-ce que c'est à peu près mobilisé de la même manière partout? Est-ce qu'il y a des zones qui sont vraiment plus mobilisées que d'autres? Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, on a évidemment, là où c'est très intéressant, la région parisienne, parce qu'il y a les collègues de la RATP. Et donc, RATP plus SNCF égale gros problème, en fait, hein, parce que tout est congestionné, ça crée des bouchons, évidemment. Les gens sont obligés d'emprunter leur véhicule personnel ou Uber pour pouvoir se rendre sur le lieu de travail. D'ailleurs, à ce sujet-là, et je pense que l'opinion publique l'a bien compris, cheminots, on comprend, si vous voulez, évidemment, le problème et la galère que subissent les usagers. Mais je pense que les usagers ont compris aussi que c'est ce gouvernement-là, qui, comme notre direction, qui n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu, alors qu'il est vraiment temps de remettre les compteurs à zéro et de repartir, si vous voulez, sur un modèle de société qui soit vraiment un modèle de société où on puisse vivre ensemble dignement et pouvoir vivre de son travail.
Alors justement, on va revenir un peu sur cette direction. Donc Farandole, de son petit nom, enfin Farandou Jean-Pierre, le PDG de la SNCF, et le DRH Benjamin Regnault ont décidé de mettre en place des techniques, des tactiques internes pour briser la grève. Alors il y a deux étapes dans ces techniques. La première, ça a été de convoquer une réunion en visioconférence avec plus de 1504 de la SNCF, lors de laquelle donc ces deux briseurs de grève ont traduit en langage cheminot, je cite, hein, donc, les annonces d'Edouard Philippe pour tenter de blinder au maximum, en termes d'argumentaire, leurs intermédiaires internes. Et deuxième étape, c'était d'envoyer un courrier électronique à l'ensemble des agents SNCF via une plateforme interne en temps réel. L'objectif, chercher à convaincre cheminot par cheminot d'arrêter la grève, notamment en divisant sur les questions d'âge, etc. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire si ça marche ou si ça ne marche pas ?
Alors non, évidemment, ça ne marche pas parce que la problématique, si vous voulez, c'est que quand même, les cheminots, on a une tradition de lutte. Alors évidemment, on est comme tout le monde, hein, on subit des reculs et des attaques, mais on a encore, si vous voulez, cette notion un peu de famille, cette notion, on a un passé des anciens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des cheminots résistants qui n'hésitaient pas à faire ce qu'il fallait pour justement se libérer et s'émanciper. Et donc là-dessus, c'est encore assez vivace chez nous. Donc en fait, on a une direction qui, comme d'habitude, va utiliser des éléments de langage en vous disant, et vous ne vous inquiétez pas, si vous êtes né avant 75 et que vous êtes contractuel, ce qui est mon cas, hein, donc pas au statut, hein, donc soumis au régime général, écoutez, il y aura l'âge pivot, mais c'est pas grave. Si vous êtes né après 75, ça sera à point, mais vous inquiétez pas, on va renégocier une convention collective, vous aurez des hausses de salaire et compagnie. Si vous êtes mécano, donc si vous conduisez les trains, si vous êtes né en 85, il n'y a pas de souci, après 85, voilà. Bon, ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher, les cheminots en ont marre, ils en ont marre d'être pris, si vous voulez, pour des abrutis. On a des conditions de travail comme les infirmiers, c'est majoritairement, si vous voulez, des métiers qui sont en 3-8, en horaire décalé. Donc la réalité, la pénibilité, si vous voulez, du métier, on connaît bien. Si vous discutez avec la plupart des cheminots, vous prenez les gens qui travaillent sur les voies. Alors leur petit nom, on les appelle les sangliers. C'est leur petit nom. Nous, on a beaucoup de petits noms chez nous. Hein, donc ça, c'est les sangliers. Les gens qui travaillent sur les voies sont des gens qui vérifier l'état du ballast, la géométrie des voies, c'est des métiers qui sont quand même assez techniques. Vous êtes dehors la nuit, il fait froid, il faut y aller. Inutile de vous dire qu'à 64 ans, c'est juste pas entendable comme argument. Et ça, cet argument-là, il n'y a pas que chez les cheminots. Il y a dans l'ensemble de la population qui est salariée de ce pays-là, la précarité. Nous, ce qu'on a envie, comme la plupart des gens, on veut que les gens puissent partir, si vous voulez, dans des conditions dignes et vivre la retraite.
Alors, toujours sur cette même tentative de la direction, il y a cette espèce de chantage à Noël. Donc, le PDG, là, Farandou, il a fait une petite vidéo tout récemment là, sur Noël, essayer de penser à Noël. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, bon, pour les gens qui sont extérieurs à la SNCF, on se dit, mais ce gars-là, c'est un brave gars quand même, vous vous rendez compte, il nous parle de la famille, c'est important, le Père Noël et compagnie, et patati et patata. Non, ça c'est de la com, c'est du pipeau, c'est du farandou, hein. De toute façon, il a été, si vous voulez, missionné par Édouard Philippe en lui disant, il faut faire en sorte que ça reprenne tout de suite. Un petit indice, en termes de sémantique, quand vous êtes cheminot, vous travaillez en gare, on vous interdit, pas on vous interdit, mais on vous reproche à chaque fois, on vous dit, on ne dit plus usager, on dit client. Ah. Et là, on a Monsieur Farandou qui nous dit en début de vidéo, au nom du service public, au nom des usagers.
Tiens donc,
voilà. Donc c'est assez amusant. Vous avez vos petits chefs qui vous disent attention, c'est pas bien, hein, on dit pas ça, hein, maintenant on est, y a que des clients. Et puis vous avez numéro 1 qui vous dit au nom du service public, au nom des usagers. Bon, après le deuxième argument qui est vraiment grotesque, l'histoire des fêtes et de dire vous êtes vraiment des salauds, vous n'avez aucune dignité, vous vous rendez compte, vous allez prendre une nouvelle fois le Père Noël en otage et des petits-enfants vont être malheureux à cause de vous. Bon écoutez, nous on n'est pas dupes, la population n'est pas dupe, le Père Noël pour les capitalistes c'est faire du profit, c'est pas de réunir des familles, d'accord. Nous d'ailleurs on est comme la plupart des gens, nous ce qu'on veut faire, je pense que le meilleur cadeau que l'on peut faire à nos enfants et aux générations futures, c'est d'avoir une retraite, c'est d'avoir un système d'éducation qui tienne la route, c'est d'avoir des hôpitaux qui tiennent la route, c'est ça qui est intéressant. Après, faire plaisir à ses enfants, oui, d'accord, avoir la nouvelle PlayStation, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'être émancipé, de vivre correctement et de mener une vie sur deux pieds et être debout. Donc cette vidéo-là, de toute façon, se termine en plus, c'est risible. Il nous avoue un de ses points faibles en disant, vous commencez à comprendre, cette manif-là, ça commence quand même à coûter cher. Il faut savoir qu'un jour de grève chez nous, c'est 20 millions d'euros. Hein, pour vous donner une idée, sans rentrer dans les détails très comptables et techniques, le bénéfice sur le dernier exercice s'est élevé à 387 millions d'euros. Donc, bah, ça commence à faire mal, les profits commencent justement à partir en fumée, et monsieur Farandou, bah voilà, la problématique, cette fameuse vidéo, c'est de dire vite, 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 arrêtez, parce qu'on perd du pognon. Et ben non, justement, la bataille commence, ne fait que commencer, et c'est par là qu'il faut justement continuer et amplifier le mouvement.
Alors justement, on envisage donc Noël, mais on envisage aussi l'après-Noël, puisque bon, la réforme, a priori, c'est pour février. On sait qu'il va falloir combattre longtemps, et vous êtes en grève reconductible depuis le 5. Est-ce que vous avez commencé à envisager ce qu'on appelle dans le mouvement ouvrier des caisses de grève ?
Alors oui, les caisses de grève, on essaie de faire des caisses de grève. Ça, c'est aussi vieux que le mouvement ouvrier. Ça permet d'être tout simplement indépendant. Ça, c'est très important. Hein. On ne dépend pas de Pierre, Paul, Jacques, de grandes directions syndicales qui vous disent bah, « Écoutez les gars, c'est terminé, maintenant on reprend. Et puis de toute façon, vous n'avez plus d'argent. » Non, ça permet de s'organiser, d'être autonome. Donc on va commencer à faire sur des marchés populaires avec des caisses de soutien pour pouvoir discuter avec les gens, parce que c'est pas simplement tenez, donnez-nous de l'argent, non, c'est expliquer ce qui est en train de se passer. Ça, c'est très important pour tenir dans le temps. Faut, je pense, être conscient d'une chose. Farandou est derrière Macron. Macron, c'est un stratège. Donc, nous, on est prêts pour y aller. Il va falloir qu'on crée des solidarités. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est très important. Quand on rencontre les gens, on leur dit, écoutez, on fait grève, évidemment, parce qu'on veut améliorer notre statut, puis surtout faire en sorte que notre convention collective, qui est en cours de négociation, soit correcte. Mais on fait grève aussi pour vous. Voilà, si on gagne si on a ce retrait de cette réforme de la retraite, ça va être une victoire, et cette victoire-là va pouvoir permettre de donner confiance à tous les secteurs d'activité de l'économie. Et Macron, on est bien conscient. D'ailleurs, là, il a commencé par virer Delevoye. Nous, on l'appelle dévoyé. Hein, l'homme au... Alors, il y a les chats, on ne sait pas combien de vies. Bah, lui, il a 13 vies. Il est bientôt, je ne sais pas, on va découvrir qu'il aura un contrat de je ne sais pas où, de je ne sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est des points positifs. Demain, ça va être une grande manif. Demain, il va falloir y aller. Moi, je vais faire un appel à tous les gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas l'habitude de faire grève, qui sont dans les secteurs isolés. Je vous dis, demain, venez. C'est important. Les manifs, ça fait partie de ces moments-là où on prend conscience de ce que c'est un mouvement collectif, et ça permet de justement de comprendre qu'on n'est plus seul, qu'il y a des travailleurs autour de nous, et qu'en fait, on a tous le même intérêt, c'est de défendre notre steak, parce que sinon, il ne faut pas compter sur le patronat pour justement nous donner des conditions de vie décentes.
Retour sur la caisse de grève, est-ce qu'il y a un endroit où on peut donner de l'argent ? Est-ce que nos auditeurs...
Alors oui, il y a un endroit très sympathique qui s'appelle le bar fédératif des clameurs, hein, donc qui est dans le 7e arrondissement, qui est de mémoire rue d'Aguesseau, je crois. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. On peut évidemment, après, par rapport à ça, pareil, moi je fais un appel qui est d'ordre... je dirais interprofessionnel, aux gens qui se sentent isolés à droite à gauche. Les soutiens, vous savez, peuvent être divers et variés. Nous, on a l'habitude de dire, parce qu'on est des secteurs qui sont souvent en lutte, des bastions syndicaux, comme les collègues, par exemple, qui sont dans l'énergie, comme les collègues, les copains, les copines infirmières. Ce qui est important, c'est de ne pas se sentir seul. Hein ? C'est ça qui est important. Parce que quand on est soutenu, on sait qu'on peut y aller. C'est ça qui donne du courage. Hein, c'est ça qui est très très important. Et donc après, voilà, je pense que, comme on dit, la victoire en chantant, on peut y arriver. Ça, c'est super important. Et là, on va pouvoir vraiment commencer à relever la tête. Et c'est ce qui nous manquait depuis très très longtemps, c'est une victoire.
Bien, ben merci beaucoup pour cette interview et ce temps passé avec nous. On se retrouve tous dans la rue demain, bien sûr. Le rendez-vous, d'ailleurs, on le redira plein de fois, mais je pense qu'on va le redire plein de fois dans cette émission, c'est...
Ah, je sais pas.
Eh ben voilà.
Alors, le rendez-vous, donc c'est 11h30, manufacture des tabacs. Juste un petit message aux gens qui nous écoutent, qui sont, et je le comprends, un peu effrayés par les manifestations, avec ce qui s'est passé. Nous sommes un groupe de cheminots, nous, entre autres, nous avons participé aux Gilets jaunes. Inutile de vous dire que la répression policière bat son plein. N'ayez pas peur. De toute manière, là, la roue est en train de tourner. Là, vous allez l'évoquer justement avec ce jeune qui s'est fait mutiler, hein, tout simplement.
Tout à fait,
ouais. Faut décrire la situation telle qu'elle est. Plus on est massif, d'accord, plus la démonstration est impressionnante, et de toute façon, plus les flics et les forces de l'ordre en face seront un peu dans leurs petits souliers. Donc, faut pas avoir peur. Au contraire, venez. Si vraiment vous pensez que vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, mettez-vous derrière les cortèges syndicaux. Hein, voilà, de toute manière. Mais par contre, soyons nombreux, ça c'est important.
Carrément, merci beaucoup. En tout cas, on continue cette émission et puis on se retrouve demain matin pour diverses choses, notamment la manifestation. Justement, donc, on enchaîne avec un point un petit peu sur l'état des lieux de la grève à l'échelle national. Alors, un état des lieux bien sûr non exhaustif, mais alors, on a parlé des cheminots actuellement, on a parlé aussi de la RATP, qui sont effectivement dans les fers de lance de la mobilisation, mais pas uniquement. Hein, bon, la grosse manifestation, c'était le 5 décembre, entre 806 000 et 1,5 million de manifestants. Mardi 10 décembre, on était à 339 000 chiffres ministères contre 885 000 chiffres CGT. Et on aura probablement encore plus de monde demain, puisque des syndicats absolument révolutionnaires tels que la CFDT ou l'UNSA rentrent dans la danse, puisque la ligne rouge a été franchie selon eux, c'est-à-dire, hein, vous l'avez forcément entendu, l'âge pivot donc, qui passerait à 64 ans, puisque avant vous auriez donc une décote. Hein, donc si vous avez le droit de prendre votre retraite à 62 ans, mais entre 62 et 64 ans, si vous la prenez, vous aurez une décote, donc une pension qui sera amoindrie, même si vous avez travailler le nombre d'annuités requises pour avoir une retraite à taux plein. Donc, côté cheminot, côté RATP, on est bon. Alors, autre gros secteur mobilisé depuis le début, les enseignants. Le 5 décembre, on était à 70% de grévistes selon les syndicats. Chiffre ministère, 51%. Le 10 décembre, effectivement, ça a un petit peu baissé. 13% ou 19% en fonction de primaire et secondaire selon le ministère d'Éducation nationale. 30% pour le primaire, 62% pour le secondaire, selon les syndicats, et bien au-delà de 50% à Paris, hein, vraiment les enseignants à Paris, notamment en région parisienne, plus qu'à Paris même d'ailleurs, sont très mobilisés. Il faut dire que les profs sont massivement, s'ils sont massivement mobilisés, c'est qu'ils sont massivement impactés comme l'intégralité des fonctionnaires, puisque de 6 derniers mois, on avait déjà parlé de pris en compte actuellement pour passer en retraite, eh bien ce sera l'ensemble et l'intégralité du nombre d'années travaillées et du nombre surtout de points cotisés. Donc pour certains enseignants, c'est de 300 à 600 euros mensuels en moins par mois de prévision pour la réforme des retraites. On comprend qu'ils soient massivement mobilisés. Le 5, comme le 10, certains établissements ont dû carrément fermer car plus de la moitié du personnel et pas seulement des enseignants étaient grévistes. Et puis surtout, nos amis lycéens sont également dans la place. Un certain nombre d'établissements à l'échelle nationale, alors il est difficile d'avoir un chiffre, mais ont été bloqués le 5, le 10 et même d'autres jours de la semaine dans les grandes villes de France, dans toutes les grandes villes de France, Lyon y compris. D'ailleurs, à Ampersax, le lycée Ampersax, hein, on rappelle qu'il y a eu une très forte répression, comme souvent d'ailleurs les lycéens prennent une très très forte répression, les flics essaient de leur faire peur, et on a eu déjà un blessé grave avec un tir tendu de LBD 40 en pleine mâchoire. Au niveau des universités, alors les universités sont mobilisées depuis, on vous en avait déjà parlé, depuis l'immolation à Lyon du camarade de Solidaire étudiant Anas. Les universités les plus mobilisées sont parisiennes, lilloises, bordelaises. Alors à Bordeaux, j'en parle rapidement, elle est bloquée depuis le 4 décembre. C'est le véritable QG de la mobilisation dans la ville de Bordeaux. Hein. C'est là-bas que se déroulent les assemblées générales interprofessionnelles et interluttes. Des AG à plus de 800, voire 1000 personnes et s'y organisent et partent de cette université des blocages multiples. Et d'ailleurs, la présidence de l'université a accepté, grâce au rapport de force, de reporter les examens. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les universités, puisqu'à Lyon, les étudiants tentent de se mobiliser, mais on leur met un certain nombre de bâtons dans les roues. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Nous, depuis un peu avant de la grève générale, on essaye de se mobiliser. Pourquoi je dis essaye ? Car merci Nathalie Dampier, on n'a pas réussi encore. À chaque tentative de mobilisation, elle nous a bloqués. Mais voilà, donc à chaque fois qu'on a essayé de faire des blocus à la fac, elle nous a soit envoyé les flics, soit envoyé les CRS et la BAC, soit elle va compliquer les choses avec une sécurité privée. Le problème de la sécurité privée, c'est qu'elle a décidé d'engager un personnel de sécurité privée dehors de la fac qui ne respecte pas les étudiants. Ce qui s'est passé notamment cette semaine, c'est que lundi, on a fait une tentative de blocage à la fac et notamment un agent de sécurité a sorti un couteau. C'était un agent de sécurité privée de la fac qui a sorti un couteau devant des étudiants. Nous, on a grave flippé, carrément, normal, on a reculé. Ce qui s'est passé juste après, c'est que l'intervention de la BAC a mal fini. On a un étudiant de L1 qui a deux doigts cassés, deux phalanges cassées, car l'intervention de la BAC, elle finit jamais bien. Après cet petit essai de blocage échoué, car clairement on a échoué, on a eu plusieurs tentatives de blocage pendant la semaine. Mardi, l'université était fermée, donc on n'a pas dû bloquer. On est allé dans les lycées, et notamment, comme on l'a déjà parlé, la répression, elle sort de la fac et elle est dans les lycées maintenant. Mercredi, on a essayé aussi de bloquer. On s'est retrouvé pas avec des flics, mais avec un homme de sécurité privée qui était depuis 5 heures du matin, même avant le premier tram. Donc on n'a pu rien faire. On a essayé de bloquer la fac. À nouveau, la sécurité privée, ils étaient en nombre. Ils étaient plus que nous. Donc on n'a pas réussi à bloquer. Jeudi, grâce à un rapport de force qu'on a eu énorme, on a réussi à bloquer la fac, car on était une bonne centaine. Mais malheureusement, vendredi, quand on a réessayé, on a échoué le blocage. Il y a eu tous les étudiants qui ont rentré, mais notre rapport de force, après une semaine, deux semaines, trois semaines, a marché, car on a réussi à avoir le rapport des examens. Donc tous les examens qui devaient avoir lieu cette semaine vont être reportés à janvier.
C'est donc toujours ça de gagner. Et puis j'imagine que demain, l'université sera mobilisée, qu'il y aura une tentative peut-être ou pas.
Il n'y a pas des tentatives de blocage cette semaine, il y a juste des tentatives de mobiliser des étudiants qui ne veulent pas sortir de chez eux, qui ne veulent pas sortir de leur confort. Mais quand même, on continue à essayer. Demain, on va être avec un cortège étudiant derrière les syndicats.
Ouais.
Voilà, derrière le cortège syndical. Et puis, on va essayer de faire un gros cortège, un beau cortège étudiant avec notamment des profs, des étudiants, un peu partout. Donc voilà.
Merci pour cette petite info donc spécifiquement lyonnaise. On revient à l'échelle nationale. Vous avez forcément dû en entendre parler, mais enfin, les raffineries, un peu comme en 2010, pas encore de la même ampleur, mais se sont mobilisées. Alors, le 10 décembre, 7 raffineries sur 8 étaient bloquées, certaines pour 24 heures, certaines pour 48 heures, et certaines même en reconductible, donc au jour le jour. Hein, elles font des assemblées générales le matin, et elles reconduisent ou pas la grève. C'est pas encore le cas pour Fezin, mais on peut préciser que les salariés de Fezin ont été en grève pendant 45 jours, de mi-octobre jusqu'à fin novembre, ce qui peut expliquer une certaine forme de fatigue possible, ce qui fait que c'est pas une des raffineries mobilisées, mais peut-être que ça viendra. En tout cas, un certain nombre de dépôts de carburant sont impactés, non pas les raffineries puisqu'ils ont toujours des réserves, donc pour le moment les raffineries sont pas impactées, mais des dépôts de carburant à l'échelle nationale spécifiquement dans l'ouest de la France sont impactés. Il y aurait actuellement un peu plus de 350 stations en pénurie, ce qui n'est pas encore beaucoup, mais c'est un bon début. Il faut effectivement là tenir dans la durée. Il faudra suivre aussi de près ce qui se passe dans les raffineries s'ils ont besoin de coups de main au niveau caisse de grève. Au niveau des ports, depuis jeudi, donc ils n'étaient pas vraiment rentrés en reconductible ou en mobilisation, depuis jeudi dernier, eh bien, les ports, et pas des moindres, hein, deux des plus importants de France, Le Havre et Marseille, ont bloqué et donc n'ont aucune activité portuaire. En termes des salariés de l'énergie, eh bien, comme ils l'avaient annoncé, hein, toute la semaine, depuis le 5 décembre, il y a eu des coupures de courant un peu partout en France, et je crois bien qu'ils ont l'intention de continuer, en tout cas ils appellent à continuer ces coupures de courant stratégiques qui permettent de nuire à l'économie capitaliste et à certains secteurs comme le ferroviaire par exemple. Et pour terminer, on a les routiers qui sont rentrés depuis hier en mobilisation, donc alors certes sur des revendications très sectorielles pour un 13e mois, mais si les routiers s'y mettent, on peut considérer qu'il y aura des kilomètres de bouchons en plus et donc un blocage de l'économie encore plus conséquent que celui créé par les cheminots et la RATP. Je terminerai avec les hospitaliers, c'est aussi très compliqué à décompter le nombre d'hôpitaux en grève, d'hôpitaux même en grève, mais il y en a un certain nombre. Et pour Lyon, on a les camarades du Vinatier qui sont particulièrement mobilisés avec des piquets de grève tous les jours depuis le 5 décembre.
Et on passe très vite à la démission de Delevoye.
C'est pas un ni cinq, mais finalement 13 mandats dans les organismes extérieurs qu'a cumulé notre cher ministre Jean-Paul Delevoye, chargé de la réforme des retraites. Alors pour assurer autant de postes, Delevoye doit sans doute bénéficier d'un don d'ubiguïté. Présent partout à la fois, oui, mais déclaré nulle part. Et souffrant sans doute d'amnésie chronique, en tout cas en ce qui concerne sa déclaration d'intérêt, puisqu'il n'avait pas déclaré, il avait déclaré au début seulement deux mandats. Il est peut-être plus probable que la notion de conflit d'intérêts n'existe pas en Macronie. Trop ringard peut-être, pas assez concurrentiel pour nos héros d'un monde flexibilisé, où l'homme nouveau tient en équilibre avec un pied dans le public, un pied dans le privé. Delevoye a conservé son salaire versé pour sa fonction de président de l'Institut Parallax d'abord. Institut qui est lié au monde des assurances, un salaire de rien de moins de 73 000 euros net en 2018, ce qui représente un salaire moyen mensuel de 5600 balles. Des miettes en somme. Mais pour échapper à la pauvreté, il touchait parallèlement, comme conseiller de l'Institut de formation des assurances, 78 000 euros en 2017, soit 6500 euros par mois. Histoire d'avoir un peu d'argent de poche à la fin du mois. Mais comme cela ne suffisait toujours pas pour s'accorder quelques plaisirs de temps en temps, Delevoye était aussi administrateur à l'Institut de formation de la profession de l'assurance, administration au conseil de la fondation de la SNCF, mais aussi président de la chartreuse de Nonville-sur-Montreuil, président de l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France, etc. etc. Pour la blague, Delevoye était aussi membre du conseil d'administration de l'association Démocratie Ouverte, avec son pote Cyril Lage, on s'en rappelle, c'est lui qui avait lancé le grand débat pour apaiser les gilets jaunes. Mais rassurons-nous, tous ces postes sont, comme il dit, caritatifs, entièrement bénévoles, et ne doivent pas remettre en cause la super réforme des retraites qui sert, ce sont ses mots, le dialogue social et l'apaisement de notre société. Bref, en prenant en compte sa rémunération comme haut commissaire chargé de la réforme des retraites, on en est quand même, en tout, pour 2018, à 12 000 euros des revenus mensuels cumulés. Le plus étrange, et ce qui est un peu flippant aussi sur l'histoire du fonctionnement interne de l'Élysée, c'est que le secrétariat général du gouvernement, qui est censé s'assurer de la légalité fiscale de ses membres, n'a absolument rien vu, comme c'était une aiguille dans une botte de foin. Mais bon, faut croire que le gouvernement a quand même fini par lâcher aujourd'hui. Être à la fois en charge d'une réforme des retraites qui fonctionne sous la pression d'un lobbying des assurances et des fonds de pension, et membre de l'Institut de formation de l'assurance, c'était quand même un peu gros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ne le voit plus.
Il a osé.
Alors, on n'a pas trop le temps de rigoler, du coup, on passe tout de suite à Bordeaux.
Alors, sommes-nous en train d'assister à la fabrication par la police et la justice d'une mini-affaire Tarnac à Bordeaux ? Rappel des faits, samedi 7 décembre au matin, une importante opération de police s'est déroulée dans le quartier du Bousca, une zone résidentielle UP de Bordeaux. Un dispositif policier composé notamment de membres de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, spécialisée dans la lutte contre le banditisme et le terrorisme, donc qui a procédé à une intervention dans un appartement. Les flics y arrêtent 16 membres de l'ultra-gauche, selon le terme consacré par les médias, accusés de s'être réunis pour commettre des violences durant la manifestation Gilets jaunes qui devait se tenir le même jour dans la ville. Une date importante puisqu'il s'agissait d'un appel Gilets jaunes à rejoindre le mouvement de grève en cours contre la réforme des retraites. Alors, dès le lundi suivant, la presse nationale et régionale a très largement relayé l'opération dont se sont félicités la préfecture et le parquet. Le journal de 20h de TF1 y a même consacré un sujet de près de 2 minutes, si seulement la parole des grévistes pouvait obtenir autant de temps d'antenne chaque soir. Alors les différents articles sont à peu près les mêmes. Donc on y apprend que les 16 membres des Black Blocs, âgés entre 19 et 49 ans, liés à la mouvance anarchiste, se seraient réunis pour s'organiser et se préparer, notamment en confectionnant des engins explosifs avec de l'acide chlorhydrique, donc ils seraient préparés pour casser du flic. Alors plusieurs d'entre eux auraient déjà eu des démêlés judiciaires, participation à un attroupement avec armes et dissimulation du visage, trafic de stupéfiants et violence avec armes, vol à main armée, et même vol avec violence, extorsion, vol en réunion. Par conséquent, le parquet les a tous mis en examen pour dégradation commise en réunion et association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Tous et toutes risquent plusieurs années de prison. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et les autres ont été placés sous un strict contrôle judiciaire. Alors, ce genre de couverture médiatique à laquelle on a pu assister, elle est symptomatique de la manière dont les médias participent à la défense de l'ordre établi. En effet, tout dans le traitement de l'affaire, ici, pousse à la décrédibilisation de la contestation sociale en cours en ce moment. On insiste sur des individus dont la violence naturelle sera attestée par leur casier judiciaire bien rempli, et on développe sur de supposées stratégies pour porter atteinte à la police et sur l'aspect secret de la dite réunion. Domine alors une vision sécuritaire qui tend à criminaliser les mouvements sociaux. Criminaliser et donc aussi dépolitiser de la même manière, puisque les intentions des malfaiteurs, là, parce que relèveraient de motifs non politiques et irrationnels, en particulier la haine du flic. Oui, j'ai bien dit malfaiteur, comme dans le chef d'inculpation utilisé par la justice. Et on arrive là au cœur de l'enjeu de cette affaire, victimiser la police et ainsi camoufler la violence répressive du pouvoir aujourd'hui. probablement grâce à une infiltration, les flics ont pu procéder ici à un gros coup de filet et peuvent maintenant se permettre de monter les vêtements en une véritable affaire pour servir leur propre stratégie. En effet, hein, c'est quand même une véritable aubaine pour la direction de la police et les syndicats de policiers. Ce groupe organisé attesterait de l'existence de groupes très organisés, n'ayant pour seul objectif sur le territoire national que d'attenter directement aux agents de police. C'est en cela même que si on est loin de la même ampleur, il n'y a pas eu de prise de position ministérielle par exemple, j'ai envie de comparer un peu ce battage médiatique à l'affaire Tarnac. Alors pour rappel, l'affaire Tarnac, elle désigne une longue enquête antiterroriste dont la principale victime a été Julien Coupa. Vu comme le chef du comité invisible, donc le groupe ayant rédigé notamment l'ouvrage L'insurrection qui vient, donc vu comme le chef de ce groupe par la DCRI, le renseignement intérieur, il a été accusé d'avoir saboté avec plusieurs autres militants et amis une ligne de TGV et avoir commis des actions violentes. Inculpé pour terrorisme, ils ont fait les frais pendant de longues années d'une enquête politique montée de toutes pièces pour essayer d'attester de l'existence d'une cinquième colonne gauchiste et violente sur tout le territoire. Et ici, les mêmes délires conspirationnistes, ils refont surface. En effet, les flics et la justice ont fait directement un procès d'intention aux militants interpellés, en leur attribuant notamment la paternité de plusieurs faits, et ce, sans la moindre preuve. Des tags avec marqué des tags ACAB qu'on a retrouvés dans le quartier et dans la ville, apparemment, ils relient ça directement à cette affaire. Mais aussi une série de lettres anonymes menaçant de mort des policiers et des familles ces derniers temps. Alors, autant d'éléments qui attesteraient de l'intention de casser du flic, donc, mais aussi de l'existence d'un réseau anti-flic très structuré sur tout le territoire, enfin, d'après les syndicats policiers. Alors, dans un article du Parisien, qui est visiblement le journal avec la plus grosse concentration de ce qu'on peut appeler de journal flic, vu la précision, les informations précises qu'ils arrivent à tirer, la police a même rebaptisé l'appartement où a lieu les arrestations de l'appartement conspiratif. Donc des délires paranoïaques qu'il ne faut pas prendre à la légère car il risque d'être à l'origine de nombreuses autres opérations de ce genre, notamment contre les caisses de solidarité face à la répression. D'ailleurs, une semaine après l'affaire, la mécanique ne s'est pas stoppée puisque les flics et la presse à leur service, et en premier lieu le journal Le Parisien, ont averti sur un collectif dénommé ultra-gauche ACAB, c'est écrit texto dans l'article du Parisien, qui aurait appelé à une action nuit bleue contre les forces de l'ordre les 13 et 14 décembre. Problème, il ne s'est rien passé ces soirs-là et aucune trace du dit appel sur les sites de presse ou ailleurs. Alors, cette idée d'un réseau puissant et structuré anti-flic en France, elle serait aussi attestée d'après les flics par l'affaire de Marie Accablande, donc c'est le pseudo Facebook d'une militante qui surveillait les pratiques des flics et qui aurait donc d'après eux constitué tout un fichier sur les membres de la police judiciaire. Bref, clairement, une affaire comme celle-ci, elle apporte de quoi nourrir les manipulations des syndicats policiers et leur rhétorique victimaire pour justifier parallèlement à la répression des mouvements sociaux.
Et du coup, on enchaîne tout de suite pour continuer à parler des flics, puisque si tout le monde est en grève, tout le monde manifeste, même la police, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est dans le même camp ? Je vous lis tout de suite, la réponse est non. Ah. Et nous allons très rapidement voir pourquoi. Jetons d'abord un œil au tract émis par les syndicats de police. Sur le site de Alliance, un des principaux syndicats pour la police, on trouve un certain nombre de tracts qui concernent la réforme des retraites. Et notamment un tract publié le 10 décembre, signé par Alliance, mais aussi par UNSA Police et Unité SGP Police, et qui faisait appel à un certain nombre d'actions pour la journée du 11 décembre. Pour cette journée, leur mode de protestation contre la réforme des retraites s'est fait en 5 points, dont le fait de ne faire qu'un service minimum en cas d'urgence, donc appel du 17, et des rassemblements. Mais surtout, il y a eu des contrôles renforcés dans les aéroports et sur toutes les frontières terrestres. Fin de la citation. La stratégie est douteuse, mais autrement dit, pour lutter contre la réforme des retraites, on harcèle ce qui fuit leur pays. Rien que pour ça, on n'est pas du même côté, et je vous rappelle que ce tract est signé par les trois principaux syndicats de police, et quand je dis principaux, j'entends qu'il n'y a presque que eux. D'abord, ensuite je veux dire, si on regarde leurs revendications, on y trouve noir sur blanc la demande de faire du métier de flic un métier à part et qui place les policiers systématiquement au-dessus des autres. Ils ont demandé et déjà obtenu, en moins d'une semaine de revendications, que leur métier soit reconnu comme un facteur à risque, et ce, peu importe qu'ils travaillent dans des bureaux ou dans la rue. Pourquoi le travail de flic, même dans un bureau, serait-il dangereux? Eh bien, parce que défendre les patrons, les actionnaires, le gouvernement et plus généralement l'État contre le peuple, ça peut susciter de la haine. Mais c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas avec nous et qu'ils se battent surtout pour que leur travail de maintien des inégalités et de protection des dominants soit valorisé. Pour finir de vous convaincre, parlons de la réaction de Grégory Joron, CRS et secrétaire général de Unité SGP Police. Et sa réaction à quelques phrases de Sarah Massoud, juge et secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Phrase que l'a prononcée dans une interview pour Mediapart le 4 décembre. Et ses paroles, je vous les laisse écouter.
D'un point de vue très personnel, alors que je suis syndicaliste, j'ai presque peur d'aller manifester demain, parce que j'ai peur de qui? J'ai peur des policiers. Moi, j'ai peur demain... des gaz lacrymogènes, j'ai peur de me prendre une grenade de désencerclement ou bien un tir de LBD. Aujourd'hui, le syndicat de la magistrature l'a dénoncé déjà depuis plusieurs mois, il y a un constat de violence policière qui a conduit, vous le savez très bien et vous en avez parlé beaucoup à Mediapart, à des atteintes à l'intégrité physique de nombreux manifestants, donc on l'a condamné.
Donc elle ne fait rien d'autre que le constat que toutes les personnes de bonne foi font. Aujourd'hui, il est dangereux d'aller manifester et il y a une augmentation des violences policières en manif. Et on ne devrait pas énoncer cette vérité d'après Grégory Joron, puisqu'il a écrit une tribune dans Le Parisien, qui décidément est un journal pro-flic, pour accuser la magistrate d'attiser la haine anti-flic, ce qui pour lui serait la grande gangrène de notre société. Et surtout, d'après lui, à cause des propos de Sarah Massoud, les policiers s'inquiètent maintenant un peu plus d'être traduits en justice. Alors c'est vrai que les policiers le sont rarement traduits en justice, mais officiellement ils doivent quand même pouvoir l'être. Et la police et la justice sont deux organes différents. Il termine avec cette phrase, que je vous cite mot pour mot. « Madame, les policiers risquent leur vie quotidiennement pour vous permettre de vivre la vôtre paisiblement. » Alors les policiers risquent pas tant leur vie, mais se mettent peut-être dans des situations délicates, pour permettre en effet une vie paisible, mais pas une vie paisible pour tout le monde, seulement pour les plus puissants.
Et maintenant, on va parler encore de répression, mais une autre forme de répression, en fait, qui est celle des groupuscules d'extrême droite. Et oui, parce que depuis le 5 décembre, la mobilisation, bon, elle est clairement menée par les syndicats et les travailleurs. À l'inverse de ce qu'on avait pu observer au début du mouvement des Gilets jaunes, du coup, l'extrême droite est loin de soutenir la dite mobilisation. Si en effet, il y a bien eu des déclarations de membres du Rassemblement National en faveur des grévistes, les syndicats, dont en premier lieu la CGT, ont rejeté le soutien du Rassemblement National, notamment Philippe Martinez, qui avait appelé à expulser de l'extrême droite des cortèges. Alors, les tentatives de récupération se sont définitivement achevées avec l'expulsion d'un piquet de grève, lors d'un piquet de grève d'un élu RN. Et les fachos, même s'ils se déclarent toujours contre la réforme, ils se déclarent toujours contre la réforme et affichent un soutien,
reprends-toi, tout va bien. Voilà. On a plus de temps que prévu finalement.
D'accord, vas-y. Ok, bon, bah, je vais prendre mon temps. Donc, si les fachos se déclarent toujours contre la réforme, dans le même temps, ils affichent toujours un soutien indéfectible aux forces de répression sont là pour protéger les fossoyeurs. Du système de retraite. Autant vous dire donc qu'avec tout ça, l'extrême droite est loin d'être enchantée par la mobilisation sociale. Il y est même un peu hostile, surtout chez les groupuscules, voire carrément. Comme elle avait pu l'être, lors du mouvement des Gilets jaunes. Donc excite les fantasmes sur le peuple réel qui se relève face au mondialisme et à l'immigration. Ici, avec le mouvement contre les retraites, on est face à une mobilisation d'affreux syndicalistes, partisans de la lutte des classes, figure honnie par tous les fascistes. Alors, l'horizon d'un potentiel coup de force pour prendre le pouvoir n'est plus d'actualité désormais pour les fachos, vu que le mouvement des Gilets jaunes, ils n'ont pas réussi à le récupérer. Et du coup, les différents groupuscules semblent revenir à leur ancien rôle, qui a toujours été leur dans l'histoire, et encore aujourd'hui, sur tous les continents, celui donc de force agissant aux marges de l'État capitaliste pour garantir le maintien de l'ordre social et économique existant. Donc plus concrètement, pour défendre les riches, les possédants et les patrons. Ainsi, dès le premier jour de la mobilisation, plusieurs fachos ont attaqué avec des armes des étudiants tentant de bloquer l'université Paul-Valéry à Montpellier. Deux étudiants ont été légèrement blessés. Vendredi dernier, encore dans une fac, hein, ce sont une vingtaine de membres de l'AF qui ont attaqué des étudiants bloqueurs à Strasbourg, forçant le passage à coups de poing pour entrer dans la fac. Et enfin au Mans, hein, c'est toute une bande de membres de l'Action française qui ont saccagé le centre-ville et en particulier plusieurs bars identifiés comme de gauche le week-end dernier. Alors, on remarque ici le groupe en tête de file de ces violences, c'est l'Action française, hein. Un groupe ultranationaliste et royaliste qui réclame le retour d'une monarchie en France et d'un ordre traditionnaliste et immémoriel. Donc fondé par Maurras en 1898, hein, ce groupuscule s'est toujours distingué par ses méthodes violentes, sa défense des grands bourgeois, son antisémitisme, son racisme et une forte hostilité hein, contre les communistes et les gauchistes en général. Aujourd'hui, il est principalement composé d'étudiants bourgeois, hein, dont beaucoup avec des particules notamment, des noms à particules. Donc l'AF, elle a bénéficié aussi d'un second souffle ces dernières années avec la manif pour tous. Et on y retrouve donc pas mal de fachos, un peu plus intello hein, que dans d'autres groupes comme les Identitaires ou le Bastion, mais qui restent toujours partisans de l'action violente, en particulier contre la gauche. Et dans les facs en particulier, hein, justement où ils sont les plus actifs pour s'opposer aux étudiants mobilisés et aux différents blocages. Alors pour justifier cela, ils se targuent de défendre la majorité silencieuse face à une minorité qui prenant en otage les autres étudiants, hein, donc une forme de peuple réel, comme ils aiment l'appeler étudiants, face à des gauchistes profiteurs, et donc en dehors des réalités réelles, de la réalité véritable. Hein. Non, je fais ma petite blague, mais en vrai, pourtant...
Je ne savais pas que c'était une blague, moi.
Non, mais faut être dans ces délires, mais bref. Pourtant, l'Action française se garde bien d'évoquer le sujet épineux de la précarité étudiante dans ses communications. Hein. Elle préfère polémiquer plutôt sur les études sur le genre, peut-être parce que la plupart des étudiants en droit et des fils de bourgeois, loin des réalités des étudiants lambda.
On enchaîne donc avec le déni de droit de grève à l'hôtel Intercontinental à Marseille.
Une autre forme de répression aussi très préoccupante. Alors à Marseille, à l'hôtel Intercontinental, hein, c'est pas le petit hôtel du coin, c'est un hôtel de luxe de 5 étoiles qui fait face au Vieux-Port, bien installé à Marseille. Et bien là, ça fait un mois qu'une grève est menée par le personnel qui revendique une hausse des salaires, un 13e mois, et surtout le paiement des heures supplémentaires face effectivement à des horaires totalement indéfinis, la multiplication de tâches qui sont aussi mal définies et des heures sup non payées, mais aussi une hiérarchie autoritaire. Bon, première réaction, la direction fait la sourde oreille. Elle met en place des agents qui commettent pas mal de violences, mais ce qui est vraiment très très grave, c'est que vendredi dernier, le tribunal de Marseille a suspendu l'exercice effectif du droit de grève de ses salariés de l'Intercontinental en les condamnant à 1000 euros d'amende s'ils se rendent sur leur piquet, s'ils interagissent entre eux ou s'ils distribuent des tracts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, un hôtel, par exemple, ou un lieu de travail peut assigner en référé à un tribunal les grévistes et peut obtenir l'interdiction pour eux de se présenter sur leur terrain de lutte et leur terrain de travail, les interdire de parler entre eux, de distribuer des tracts et même leur obliger de payer des amendes de 1000 euros. C'est évidemment très très grave et il faudra faire très très attention que ça ne se généralise pas.
On passe au local. Alors on va commencer, on vous en a parlé tout à l'heure hein, sur ce qui s'est passé le 10 décembre. Alors on ne va pas trop développer puisque la personne qui s'est faite tabassé par les flics ce 10 décembre, qui a perdu 9 dents, l'explique suffisamment bien. C'était un passant, mais malgré tout, il s'est fait tabasser.
Comprendre si j'ai plus de dents. J'étais à Lyon lundi soir parce que j'ai rendu visite à mes amis et à ma famille. Je venais de me réveiller chez un ami et je descendais juste pour manger quelque chose en bas dans la rue. C'est là où j'ai vu qu'il y avait la manifestation et je me dis que j'ai le temps, je peux aller voir de mes propres yeux ce qui se passe dans mon pays. Quoi. On voyait des gens qui étaient contents d'être ensemble et qui manifestaient ensemble et qui chantaient, qui dansaient. Il y a eu quand même énormément de lacrymogènes sur la place Bellecour à ce moment-là. Je suis allé de l'autre côté. J'ai pas envie de prendre du lacrymogène, j'ai pas envie de chahuter avec la police. Début de la vidéo, on me voit brièvement, mais tout seul. Il n'y avait aucun danger contre la police, il n'y avait personne autour. Je marche tranquillement devant tout le cordon de CRS. Parce que bon, bah écoutez, c'est la police. Je n'ai pas à avoir peur d'eux si je n'ai rien fait. J'ai entendu une remarque assez enfantine d'un représentant de la CGT qui a été lancé à l'encontre de la police à ce moment-là. Il n'y avait pas d'insulte dedans et j'ai trouvé ça bien vu et bien joué. J'ai fait un grand sourire. Je crois que je voulais même applaudir ce qu'il avait dit. Et j'ai eu le malheur de passer entre les deux. Et j'ai même pas eu le temps de taper dans mes mains que j'ai été attrapé par la capuche, jeté au milieu du cordon de CRS.
Doucement.
À ce moment-là, toute la brigade de CRS se met devant pour ne pas qu'il y ait de vidéos, pour ne pas qu'il y ait de preuves. Et là, j'ai roué de coups et on m'a tenu la tête vers le sol pendant qu'on me frappait. C'est à ce moment-là aussi qu'un autre policier m'a donné un coup de matraque, comme un coup droit de tennis, en plein dans les dents. J'ai senti dans ma bouche que ça a explosé littéralement. Et croyez-moi, la pire des sensations, c'est de sentir avec sa langue à ce moment-là qu'on n'a plus rien dans la bouche. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai même pas eu peur parce que je n'ai rien compris. 2 secondes avant, j'étais en train de marcher à la manifestation. 2 secondes plus tard, je suis au sol et que j'ai plus de dents. Et ce qui est le plus frappant dans la vidéo, c'est qu'on voit que avant tout est calme et que c'est la police qui a envenimé les choses.
Donc voilà, témoignage sur ce qui s'est passé le 10 décembre et ces gros connards, bâtards de keufs ont encore une fois tabassé gratuitement quelqu'un. En l'occurrence, c'était un passant, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a témoigner. On enchaîne avec une action qui est prévue mercredi, hein, on m'a demandé de la diffuser, donc Unity, c'est l'Union Nationale des Travailleurs Indépendants, donc qui syndiquent dans les secteurs où il y a très peu de syndiqués, les secteurs les plus isolés, notamment un peu comme la CNTSO en gros. Ce syndicat appelle à une action mercredi qui vient à 10h, donc dans le cadre de la grève, c'est d'autant plus important d'aller soutenir des grévistes, puisqu'il y aura une grève. Alors certes, ce sont des vigiles, hein, mais c'est souvent des personnes qui sont issues des quartiers populaires et qui sont sous-traitées par des boîtes qui ne respectent absolument pas le code du travail. Et donc Unity appelle une action au centre commercial de Pardieu à 10h pour essayer d'imposer une négociation syndicale contre ce nouveau patron voyou qu'on ne citera pas pour le moment. C'est la première grève de ces salariés. La plupart de leurs heures supplémentaires, entre autres choses, ne sont pas payées. Si vous êtes intéressé par cette action, vous pouvez aller voir le Facebook de Unity Lyon, UNITY-Lyon, et vous aurez accès à un numéro de téléphone, vous envoyez un texto et on vous donnera, ils vous donneront l'information le matin même ou la veille, en tout cas plutôt la veille même, sur le lieu de rendez-vous, donc centre commercial Pardieu, mercredi 10h, en soutien à des personnes qui se font particulièrement exploiter, dont le code du travail n'est pas du tout respecté.
Et pour terminer, on avait un petit...
T'es sûr que ton micro est allumé ?
Là, et pour terminer, on avait un petit documentaire qu'on n'a pas le temps de vous passer sur l'inauguration d'un lieu. Vous retrouverez ce reportage sur le blog et il sera sûrement diffusé mercredi dans le Canu Info. Mais pour vous donner envie de l'écouter, peut-être on fait une petite présentation.
Alors, c'est l'espace communal Guillotière. Cet espace donc a été inauguré hier. En grande pompe, où il y a eu 150 personnes, bien 150, voire 200 personnes qui y sont passées. Cet espace a plusieurs objectifs. Alors déjà, il y a un espace habitation qui héberge des demandeurs d'asile, notamment, qui sont censés être hébergés par l'État, entre autres choses. Mais également, c'est une ancienne entreprise de négociants de vin. Donc, il y a énormément d'espace et il a pour objectif d'être ancré dans le cœur de la Guillotière. Donc il est au 45 rue Béchevelin, avec des zones de gratuité ou d'espace prix libre absolument considérable. Donc il y aura à partir de janvier principalement un lavomatique gratuit, un espace internet, une salle de cinéma, une salle de répétition de musique, un marché rouge, des cantines populaires, des permanences juridiques, c'est très important, hein, pour les sans-papiers, pour les personnes qui ont des problèmes de logement, qui peuvent se faire expulser de leur logement pour des questions budgétaires ou parce que à la Guillotière la gentrification est à l'œuvre et donc certains immeubles sont voués à la destruction et les personnes qui en sont expulsées ne sont par loger. Si vous avez des soucis avec la CAF, Pôle emploi, etc., vous pouvez venir à ces permanences, elles seront diffusées massivement. On aura à peu près toutes les semaines. J'oublie forcément un certain nombre de choses. En tout cas, cet espace, il est ouvert et il a vocation à durer et vous êtes toutes et tous les bienvenus, même si vous ne faites pas partie de la Guillotière en tant qu'habitant ou habitante.
Vous en apprendrez plus dans le reportage si vous arrivez à l'écouter. On va faire un agenda très court. Je pense qu'on va parler que de demain. Demain, il y a manif.
Manif, donc, c'est 11h30 à la Manufacture des Tabacs, ce qui laisse à penser que ce sera une énorme manif. Et il est évident que ce serait une énorme manif, puisque, blague à part, la CFDT, la CFTC, l'UNSA y appellent également. Donc, il y aura probablement encore plus de monde que le mardi, que le jeudi 5 décembre. Venez-y le plus nombreux et nombreuses possible. Je rajoute que n'hésitez pas, si vous êtes des leftos, à regarder sur Rébellion, comme ça, par hasard. C'est jamais ce qui peut se passer tôt le matin dans nos villes.
Et demain aussi, si vous avez des trous dans votre journée, c'est la journée contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Et l'association Kabiria organise toute la journée différentes choses, et je vous invite à vous y intéresser.
Et aussi, juste pour info, mercredi, notamment appel aux syndicalistes et enseignants, il y a une AG étudiante à 14h sur la fac des quais de Lyon 2. Donc vous y êtes chaleureusement invités par les étudiants mobilisés.
En espérant que cette fois-ci, les vigiles n'empêcheront pas les personnes qui n'ont pas de carte étudiante de rentrer. Donc il faudra essayer d'être stratégique.
Exactement.
C'est tout pour aujourd'hui.
Ça a bien l'air. À demain tout le monde, puisque tout le monde demain fait grève. Vous aussi, nous aussi.